Il est midi passé de 2 minutes et c'est l'heure de retrouver Jean-François Baudin et ses invités pour les Jeudis de l'économie.
Les Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu, avec Toyota. Le tout nouveau Toyota RAV4 hybride est à découvrir chez Toyota à Ducos et à Connay.
Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. De nouvelles mesures d'urgence pour l'économie calédonienne, elles ont été annoncées hier par le gouvernement en accord avec l'État qui va les financer dans le cadre du pacte de refondation. Nous allons justement parler de ces mesures mais aussi du travail de la mission interministérielle avec deux invités, Amaury Desclude qui est le directeur de cette mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie et Christopher Gigès qui est membre du gouvernement en charge notamment de l'économie. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça va nous permettre de faire le point sur le travail de la mission interministérielle et de parler de ces mesures qui ont été adoptées par le gouvernement. Christopher Gigès, ça fait un moment que vous travailliez dessus. Il fallait qu'elles soient rapidement mises en place parce que c'est pour donner de l'air aux entrepreneurs.
Oui, exactement. Il y a une situation d'urgence aujourd'hui au niveau économique en Nouvelle-Calédonie. Le Premier ministre avait envoyé un courrier il y a maintenant plusieurs mois avec un certain nombre de mesures qui seraient accompagnées et financées par l'État. Donc, on a travaillé notamment avec la mission interministérielle que je remercie et également avec les acteurs économiques pour avoir les meilleures mesures et celles qui sont les moins déconnectées du terrain. Donc normalement on devait avoir une baisse de l'impôt sur les sociétés dès 2026. Les acteurs économiques ont fait part de leur envie et de leur demande de dire que l'année 2026 devait être consacrée à des mesures urgentes, à des mesures de soutien, à des mesures d'accompagnement du monde économique qui est en situation de crise et qu'on puisse avoir des actions sur l'impôt sur les sociétés un peu plus tard pour donner de la visibilité sur l'économie calédonienne.
On va revenir peut-être un peu plus dans le détail, mais avant cela, Amaury Desclude, ces décisions prises par le gouvernement et financées par l'État, hein, parce que c'est ça qui est en jeu, ça illustre le travail en coopération entre l'État et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ?
C'est exact. En fait, le pacte de refondation, c'est une orientation qui a été donnée par le Premier ministre pour relancer l'économie calédonienne tout en relevant les finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Pour pouvoir concilier les deux, l'État avait prévu une enveloppe de 6 milliards de francs CFP pour financer cette baisse d'impôt sur les sociétés que mentionnait monsieur le membre du gouvernement. Il l'a dit, il y avait une volonté des entreprises de réorienter cette mesure compte tenu de la situation économique difficile de la Nouvelle-Calédonie. Ça a été entendu par le Premier ministre et du coup l'État financera avec cette enveloppe de 6 milliards de francs CFP un report de cotisation sociale ainsi qu'une prolongation de l'AEME à compter jusqu'au 31 décembre 2026.
Cette somme de 6 milliards, c'est 6 milliards par an. Hein. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres dispositifs mis en place par la Calédonie qui seront entre guillemets financés et pris en charge par l'État.
Alors l'objectif, c'est qu'il y a d'abord le temps de l'urgence. Le temps de l'urgence, c'est ce report de cotisation sociale, c'est cette prolongation de l'AEME. Le moment où le temps de l'urgence se clôt, on revient sur l'ambition initiale qui est une baisse de l'impôt sur les sociétés pour améliorer la compétitivité et l'attractivité de l'économie calédonienne.
Alors revenons sur les mesures annoncées hier pour en connaître évidemment la portée, Christopher Gigès. Notamment la première, c'est le report exceptionnel des cotisations sociales du RUAM pour les entreprises qui ont connu une forte baisse de leur chiffre d'affaires. Quels sont les bénéfices attendus de cette mesure? Ça va concerner à peu près combien d'entreprises?
C'est un gain en trésorerie directe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises nous ont fait remonter le besoin justement de liquidité de trésorerie parce qu'elles sont en incapacité de payer leurs charges sociales. Donc là, on doit affiner cette semaine cette mesure avec la mission interministérielle et avec les acteurs économiques. On serait sur une baisse de chiffre d'affaires d'environ 40%, mais ensuite, il faut éviter les effets de seuil parce qu'entre l'entreprise qui est à 39% et l'entreprise qui est à 41%, les deux sont en difficulté. Donc il faut qu'on arrive à avoir cette flexibilité sur cette partie. C'est des reports de charges sans pénalité, ce qui va nous permettre de justement donner cet air. Pour le calibrage de la mesure et le nombre d'entreprises qui sont concernées, on va le faire trimestre par trimestre. Ce qui va nous permettre d'appréhender le volume qui doit être traité par la CAFAT, qui doit nous permettre d'appréhender l'effort financier qui doit être fait, financé par l'État, par les comptes sociaux. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir les accompagner. Ce qu'a pu dire le directeur de la mission interministérielle, c'est important, c'est 6 milliards qui seront remis dans l'économie calédonienne en 2026, donc sur ce report de charges sociales sans pénalité et le vote en début de semaine au Congrès d'une délibération donne la possibilité au gouvernement de le faire. Et c'est la deuxième mesure qui est une aide au maintien à l'emploi qui est aujourd'hui en vigueur, qui concerne environ 2000 salariés aujourd'hui et qui permettra de maintenir des emplois au sein des entreprises. On a toujours souhaité d'abord ce dispositif. Plutôt que de financer du chômage, on préférait financer du maintien au sein de l'entreprise, qui était beaucoup plus facile en termes d'insertion professionnelle.
Vous le savez, c'est une question que je vous pose, parce que quand on parle de report de cotisations sociales, certains disent mais ce serait mieux des exonérations. Voilà, il a fallu arbitrer là aussi, bien sûr.
Oui, il a fallu arbitrer. Enfin, il a fallu déjà entendre le message, c'est-à-dire que l'ensemble du monde économique, c'est-à-dire organisations patronales et chambres consulaires, ont demandé un report sans pénalité. Ils n'ont pas demandé d'exonération, ils ont demandé donnez-nous de l'air, donnez-nous un échéancier, donnez-nous la possibilité de pouvoir retrouver de la croissance et de la richesse pour payer nos cotisations. Donc là, on a repris exactement les demandes du monde économique. Et ce qui est important, c'est que vraiment, on est sur deux temps. On est vraiment sur un temps de l'urgence économique avec 2026, où on répond sur report de charges sociales et également aide au maintien à l'emploi. Mais le monde économique, il a besoin de visibilité. Il a besoin de s'inscrire aussi dans un temps long. C'est pour ça qu'on a pris dans le même temps la baisse de l'impôt sur les sociétés, donc de 30 à 23%, et qui permet de rendre de manière très attractive dans la région. Mais là aussi, on pense à la fois aux entreprises et aux salariés, puisque dans le même texte, il est prévu une exonération d'impôt sur le revenu pour les primes d'intéressement. C'est-à-dire que la richesse qui est créée au sein de l'entreprise, elle doit bénéficier bien entendu aux entrepreneurs, à ceux qui investissent, à ceux qui prennent des risques, mais également à ceux qui créent de la richesse à l'intérieur via les primes d'intéressement et cette exonération d'impôt sur le revenu.
À Maurice de Clul, comment se passent les arbitrages? Parce qu'on sait qu'il y a des sommes importantes dégagées par l'État, même si certains trouvent toujours qu'elles ne sont pas assez suffisantes et assez importantes, mais il y a forcément des arbitrages qui se font sur les propositions de la Nouvelle-Calédonie. Comment vous les gérez et comment vous fixez vos priorités? Au-delà de « ok, ça c'est l'urgence, ça c'est le moyen terme et ça c'est le long terme
». Alors, le premier arbitrage, c'est celui qui a été fait sur le pacte de refondation. Donc c'est le Premier ministre qui, dans son courrier de février 2026,
il y a une
feuille de route. Ensuite, quand il y a des adaptations qui sont demandées, comme celle qui a eu lieu justement sur cette mesure de report de cotisation sociale, là, la façon dont ça a fonctionné, comme l'a expliqué monsieur le membre du gouvernement, c'est une demande qui provient du monde économique, qui ensuite est relayée par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui a écrit la semaine dernière au Premier ministre. Et ensuite, le Premier ministre a décidé de donner droit à cette demande compte tenu de la situation économique que connaît la Nouvelle-Calédonie et de l'adaptation des mesures qui étaient demandées eu égard à cette situation économique.
Mais est-ce qu'il y a d'autres mesures, à contrario, qui n'ont pas forcément été retenues, sans les nommer, hein, mais est-ce qu'il y a des dispositifs où l'État a dit « non, là, ça ne va pas être possible » Est-ce que c'est arrivé?
On dialogue avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et on arrive à des accords.
Vous arrivez toujours à des accords. Alors la question de la baisse de l'impôt sur les sociétés, c'est quelque chose de très important, Christopher Gisès. Donc 2027, c'est bien ça, c'est là qu'il faudra que la mesure entrera en vigueur?
Oui, on vise 2027. Enfin, on s'est laissé une latitude puisque la date n'est pas inscrite dans le texte. On vise cette date-là, mais si le monde économique venait à nous dire on a besoin encore de mesures d'urgence en 2027, on se laisse la possibilité là aussi d'être agile sur les différentes mesures. Cette réforme de l'impôt sur les sociétés, elle est sur deux aspects. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un taux réduit sur les 10 premiers millions qui est de 15%, qui est où c'était les entreprises de moins de 200 millions de chiffre d'affaires qui étaient éligibles. Ce taux, il passe de 15 à 5% pour les entreprises qui seront en dessous de 400 millions. Donc on rehausse également le seuil. Et là, sur le taux normal, on passe de 30 à 23. On n'a pas choisi 23 pour rien. On a choisi 23 par rapport au territoire de la région pour avoir une attractivité, une compétitivité et faire revenir des entreprises en Nouvelle-Calédonie et recréer de la richesse en Nouvelle-Calédonie.
Jusqu'à quand on va considérer, à Maurice de Clul, que la Calédonie est en état d'urgence économique? Parce que vous l'avez expliqué, hein, ce pacte de refondation, il doit répondre aux urgences, prévoir le moyen terme, le long terme. Mais l'urgence, elle est prévue pour s'arrêter quand? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'en 2026, la situation ne s'est pas forcément améliorée par rapport à l'an dernier, même s'il y a déjà des dispositifs qui rentrent en vigueur. Mais vous estimez que cette urgence calédonienne, elle va durer jusqu'à quand?
Alors, deux points sur ce sujet. Le premier, c'est que pour répondre à l'urgence, il faut que le pacte de refondation soit mis en œuvre rapidement et de manière collaborative entre l'État et l'ensemble des acteurs calédoniens.
A priori.
Ce qui est le cas sur la collaboration, sur le fait d'aller rapidement, je partage un trait de caractère avec monsieur le membre du gouvernement, c'est qu'on est tous les deux impatients, donc on aimerait que les choses aillent plus vite. Et évidemment, c'est quelque chose qui est nécessaire pour donner de l'activité aux Calédoniens, pour faire en sorte que l'argent qui est apporté par l'État ruisselle dans l'économie. La deuxième chose, s'agissant de l'urgence, c'est le fait que nous, on se base sur des données. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'État de décréter le moment où l'urgence cesse, c'est aux données de montrer que l'urgence a cessé. Il y a eu un comité de suivi bancaire hier avec l'ensemble des acteurs de la place bancaire, les représentants du monde économique, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire et la marque évidemment. Aujourd'hui, on voit que l'urgence, elle est encore là. Et du coup, il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir y répondre et faire en sorte qu'on sorte de cette phase.
Même question pour vous, Christopher Jugez. Cette notion d'urgence qui est liée à la situation économique, on voit bien qu'on n'en est pas encore sorti pour l'instant.
Non, on n'en est pas sorti. On en sera sorti quand on aura retrouvé un niveau d'emploi qui était celui d'avant les émeutes. On en sera sorti quand j'éviterai de demander à Amaury en permanence du soutien pour boucler le budget de la Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie n'a jamais été aussi dépendante des aides de l'État. C'est ça aujourd'hui la réalité. Mais on est tous concentrés sur une chose, c'est cette reprise économique. Et là, je rejoins Amaury, c'est qu'on est... Il y a de l'argent qui est donné par l'État, notamment sur la reconstruction des bâtiments publics et sur un plan de reconstruction. Aujourd'hui, on a des travaux qui n'avancent pas à cause de contraintes administratives. Je prends ma part, hein, c'est-à-dire que le gouvernement n'est pas un bon élève dans ça. Quand je vois qu'il y a un appel d'offres, on doit faire valider par quatre services différents la même facture. Très clairement, on peut faire mieux. Ce qu'on disait hier avec le haut-commissaire, c'est qu'on doit mettre en place, et on le mettra en place rapidement, un comité type Notre-Dame où des contraintes administratives avaient été levées pour avancer beaucoup plus vite, parce que des chantiers qui se font, c'est des emplois qui se recréent et c'est comme ça qu'on sort de la crise.
Ça veut dire que tout ce travail modifie aussi un certain nombre de fonctionnements internes dans les services ou dans les administrations ?
Oui, clairement. Et je le dis tous les jours à mes services. C'est la richesse créée par le secteur privé qui permettra de payer le salaire et le fonctionnement des collectivités. Donc il faut que chacun prenne sa part, c'est-à-dire de dire on ne doit plus fonctionner comme avant, c'est-à-dire que les papiers qu'on demandait en quatre exemplaires et qui ne servaient pas à grand-chose, peut-être qu'on peut avoir une nouvelle méthode de fonctionner pour que ça avance. On a aujourd'hui de la liquidité qui est apportée par l'État. La plus belle absurdité, ça serait de perdre ses liquidités.
Avec ces décisions et ces financements, Amaury Duclude, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'année 2026, pour la Calédonie, les comptes sociaux seront sauvés, les régimes de retraite seront sauvés, même si on sait qu'il y a des réformes encore à prendre, mais pour cette année 2026, l'accompagnement de l'État permet de dire aux Calédoniens qu'il n'y aura pas de perte, enfin de manque sur ces régimes sociaux ?
Sur l'année 2026, l'État apporte 430 millions d'euros. Je suis désolé, je ne peux pas traduire comme ça en francs pacifiques. Je crois que c'est de l'ordre de...
Pas loin de 50.
On va dire 50 milliards. Allez,
50
on
milliards
l'a rendu à 50.
De francs pacifiques. Par le biais d'un prêt garanti par l'État et d'une subvention allouée au gouvernement de Nouvelle-Calédonie. C'est le gouvernement qui a choisi la façon dont il fléchait ces fonds-là. Il les flèche très majoritairement vers les comptes sociaux, RUAM et retraite. Demain, il va y avoir une signature de la convention entre l'Agence française de développement, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, l'État, pour le prêt garanti par l'État de 370 millions d'euros. C'est une avancée notable qui permet de montrer que les choses avancent et qu'il y a une sécurisation des financements qui est opérée pour cette année.
Christopher Gilles, sur ce point-là ?
Oui, il y a vraiment des travaux qui sont en cours, à la fois sur la partie relance économique, et on l'a dit, mais il y a aussi des travaux qui sont en cours sur la partie finances publiques, c'est-à-dire que demain on signera donc avec l'État et avec l'AFD, ce qui permettra d'éviter la cessation de paiement des collectivités calédoniennes. C'est-à-dire que le risque que des milliers de retraités soient pas payés demain, il était avéré. C'est-à-dire que le risque que des milliers de chantiers ne soient pas lancés, il était avéré.
Mais il est levé aujourd'hui ce risque.
Mais aujourd'hui il est levé. On s'est mis d'accord après différents échanges sur cette question. Mais aujourd'hui, on arrivera en fin du mandat avec une visibilité sur les finances de la finance publique calédonienne qui ne sont pas saines, mais au moins où il n'y aura pas de cessation de paiement, notamment pour les plus fragiles. Et on continue à travailler, ce qui avait été annoncé par le Premier ministre, mais ce qui implique également de la part de la Nouvelle-Calédonie un certain nombre de réformes sur le contrat de désendettement de la Nouvelle-Calédonie et la transformation des différents prêts en subventions. Et on travaille sur une trajectoire. On a commencé, hier aussi en séance du gouvernement, et passé un texte sur les économies de santé avec la création d'un numéro unique de santé, ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur suivi, d'avoir là aussi un certain nombre de rationalisation des dépenses. Le directeur de la mission interministérielle l'a dit. On a fléché beaucoup de choses sur les comptes sociaux, mais ce fléchage implique aussi des efforts. C'est-à-dire que ce fléchage implique des économies réalisées sur les comptes sociaux. Je sais que ça leur plaît pas, mais j'ai demandé un audit de la CAFAT sur les frais de fonctionnement de la CAFAT, et je sais qu'ils sont pas contents sur ça. Mais quand on met autant d'argent,
il est en cours l'audit.
Oui, il est en cours l'audit. Ils sont toujours pas contents. Mais quand on met autant d'argent sur la table, je pense que les pouvoirs publics ont un droit de regard de comment doit fonctionner la CAFAT.
Alors, on sait que ce soutien aux régimes sociaux est un des aspects du plan de refondation. Il y en a d'autres, notamment ces fameux appels à projets issus des collectivités à Maurie de Clude qui permettent de lancer des travaux sur toute la Calédonie. Ça va se passer en plusieurs phases. Vous aviez présenté la phase 1 il y a quelques temps. La phase 2, les appels à projets des collectivités, devaient être rendus le 15 mai. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des appels à projets? Et même question, comment vont se faire les choix en fonction des sommes allouées, j'imagine?
Donc, s'agissant de la vague 1, elle avait été présentée effectivement juste après les élections municipales, donc fin mars. Les engagements sont en cours. Il y a une deuxième vague qui avait été lancée.
Pardonnez-moi, avant de revenir sur la deuxième vague, les engagements sont en cours. Vous aviez beaucoup insisté sur la rapidité de mise en œuvre des travaux pour que les Calédoniens visualisent et se rendent compte de ce qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des projets qui sont déjà en cours de réalisation?
Il y a des projets qui sont déjà en cours de réalisation. Pour ceux qui connaissent des difficultés, par exemple, parce qu'ils ne sont plus portés par le même exécutif.
Il y a eu des élections municipales.
Entre-temps. Bah forcément, là, on va voir si on peut les réorienter. L'objectif du plan de relance étant vraiment d'apporter de l'activité et de l'emploi pour les entreprises.
Donc la phase 2, les appels d'offres, 15 mai, c'était terminé.
On a reçu plus de 33 milliards de francs CFP de demandes de subventions, ce qui est considérable, ce qui excède très largement l'enveloppe disponible, qui est de 200 millions, donc 24 milliards de francs CFP. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir un travail de sélection et de priorisation. La sélection, elle se fait selon 4 axes.
Les mêmes que la première phase.
Le désenclavement, les services publics essentiels, la diversification de l'économie, la lutte contre les effets du réchauffement climatique. Et elle se fait également en fonction de leur capacité à être lancée rapidement, avec un fort impact sur l'emploi et l'activité. Et ensuite, outre ce travail de sélection, il y aura un travail de priorisation. Ce travail de priorisation, il se fera avec les maîtres d'ouvrage, donc avec les communes, avec les provinces, avec le gouvernement, pour faire en sorte que leur priorité rencontre celle de l'État et qu'on finance les projets qui soient les plus pertinents.
Il y aura une troisième phase ou ce sera une deuxième et plus de phases après?
C'est envisagé qu'on fasse une troisième vague,
troisième et
probablement
dernière.
En cet automne.
Christopher Gégès, vous recevez souvent des collectifs ou des gens qui viennent vous voir dans votre bureau pour leur faire vous faire part de leurs difficultés que vous connaissez par ailleurs. Est-ce que ces chantiers qui se lancent, est-ce que ces dispositifs qui ont été annoncés, notamment pour les régimes sociaux, vous sentez que ça, c'est de nature à les rassurer ou en tout cas à leur dire « Ok, il faut qu'on tienne parce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger et ça va peut-être nous permettre de relever la tête ?»
Oui, c'est ce qu'on leur disait hier au comité bancaire. Enfin, le monde économique a raison de d'émettre des cris d'alerte parce qu'il y a des situations qui sont économiquement et humainement très 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 compliquées. Moi, j'ai fait le choix de recevoir tout le monde à chaque fois qu'on me demandait un rendez-vous sur cette partie. Mais notre rôle est d'apporter des solutions. On les apporte sur les charges sociales, sur l'aide au maintien à l'emploi, sur l'IS, sur d'autres mesures qu'on va prendre encore sur la simplification administrative, sur les dispositifs de concentration qui sont trop élevés. Mais notre rôle, même si on est en campagne électorale, notre rôle, c'est de pas mentir. Parce que il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et on a fait le choix au gouvernement de dire que quand c'était pas possible, c'était pas possible. Et vous parliez tout à l'heure des exonérations. On ne pouvait pas faire 20 milliards d'exonérations. Moi, j'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu faire dire à tout le monde, vous inquiétez pas, il y aura plus d'impôts en Nouvelle-Calédonie, il y aura plus de charges sociales, il y aura plus rien.
C'est juste pas possible.
C'est juste pas possible parce que ça, ces impôts, ces charges sociales, ça permet aussi une amélioration de la relance économique. Donc, on fait le plus qu'on peut avec l'ensemble des collectivités pour accélérer les chantiers, pour mettre en place des dispositifs. Et on travaille en lien avec l'État, en lien avec les acteurs économiques, en lien avec les autres collectivités, parce que les compétences sont partagées en Nouvelle-Calédonie. On travaillait avec la province sud encore il y a quelques jours de ça sur les dispositifs de soutien à la trésorerie, sur Sud Relance, sur d'autres dispositifs provinciaux. Mais c'est cette complémentarité et cette agilité qui fait que je suis convaincu qu'on va s'en sortir.
Alors, puisqu'on profite de votre présence en Calédonie à Maurie-de-Clude pour faire le point sur le travail de la mission interministérielle, il y a un autre aspect qui est important dont on parle peut-être un peu moins, c'est tout le plan jeunesse qui a déjà été mis en place. On sait qu'il va y avoir des recrutements, il y a des postes qui vont être créés d'animateurs, de quartiers, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que tout est calé ? On est déjà dans la phase de recrutement ?
Sur le volet jeunesse, je tiens d'abord à rendre hommage à Kervin Ouadraouane, qui était un membre de la mission interministérielle et qui est décédé subitement ce week-end. J'ai une forte pensée pour sa famille, pour ses proches. C'était un collègue qui était exemplaire et un ami également de l'ensemble des membres de la mission. Donc évidemment, nous sommes très affectés par son décès. Le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre maintenant, c'est de mettre en œuvre ce plan jeunesse. Ce plan jeunesse, il vise d'abord les décrocheurs, les personnes qui sont en décrochage scolaire et les personnes qui sont en décrochage professionnel, pour donner des perspectives à la jeunesse. Et pour ça, il y a 1,3 milliard par an qui sont alloués pour ce plan jeunesse.
1,3 milliard de francs.
De francs, malheureusement. Je précise.
Non, mais c'est toujours bien de préciser, oui.
On poursuit trois axes. Le premier axe qui est sur le point d'être signé, peut-être demain, si l'agenda des uns et des autres le permet, c'est de repérer ces décrocheurs. Le meilleur moyen de les repérer, vu qu'ils sont hors des tablettes de la scolarité, hors des tablettes de l'emploi, c'est la journée défense et citoyenneté. Et du coup, l'idée, c'est que l'armée puisse communiquer avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, puisse communiquer avec les provinces, puisse communiquer avec le vice-rectorat pour identifier ces décrocheurs et leur proposer des solutions. Le deuxième axe pour lequel des conventions devraient être signées, je l'espère, d'ici les élections provinciales, c'est des recrutements. 100 éducateurs spécialisés pour aller vers ces jeunes décrocheurs, à chaque fois dans un contexte différent. Donc ces éducateurs spécialisés, ils seront recrutés par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, par les provinces, par les communes. Enfin, le troisième volet de ce plan jeunesse, c'est de proposer des parcours à ces jeunes. Ça peut être des services civiques, ça peut être le RSMA, ça peut être des parcours spécifiques pour les jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi, pour les remobiliser, pour les orienter.
Donc ça, c'est pour le plan jeunesse. Et c'est puis, il y a un quatrième aspect. Je vous pose la question parce que je suis obligé de la poser, mais je ne suis pas sûr que j'aurai une réponse très précise. Sur le nickel, on en est où ? Parce qu'il y a un travail de fond. Alors, vous allez me dire que c'est compliqué, qu'on ne peut pas dire grand-chose parce qu'il y a des repreneurs et il y a le secret des affaires, que c'est l'énergie, évidemment, qui nous accapare. Est-ce que les travaux avancent sur ces points-là ?
Il y a eu un sommet à Bruxelles qui s'est tenu la semaine dernière avec un événement sur le nickel calédonien qui a réuni le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, la main que représentait l'État. Il y avait également des représentants industriels à la fois de la Nouvelle-Calédonie, mais également du monde minier en général, puisque c'était un sommet plus largement sur l'ensemble des matières premières. Ce qu'il est essentiel de retenir sur ce sommet, c'est un, le fait que le nickel calédonien intéresse. La salle était pleine. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'échanges à l'occasion de cet événement. Deuxième point, c'est que l'Union européenne est très intéressée par le nickel calédonien. Elle a une ambition de sécuriser ses matières premières critiques et le nickel calédonien peut y répondre.
Donc les choses avancent, mais doucement.
Les choses avancent à un bon rythme.
À un bon rythme. Christopher Gégas, sur ce point-là ?
Non, ça avance même bien. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, il y a du secret des affaires et donc il y a des discussions qui sont en cours
sur les...
Et du coup, ça avance. Très clairement, ça avance sur ce sujet. Moi, je suis très heureux que sur la partie européenne, enfin, on est dans le scope et enfin, l'Union européenne a compris que la Nouvelle-Calédonie était un territoire européen au milieu du Pacifique et que le nickel calédonien puisse servir à l'approvisionnement en métaux stratégiques. Il y a eu un courrier du ministre de l'économie et de la ministre des Outre-mer à Bruxelles pour dire youyou, il y a la Nouvelle-Calédonie et du nickel français qui est là, et donc ça a permis de débloquer des choses. Mais surtout, ça avance sur le point de vue énergétique. Enfin, c'est dans le cadre du plan de refondation, la mission interministérielle apporte les derniers fonds nécessaires pour les dernières études qu'il fallait sur la STEP, enfin, l'unité de stockage qui va permettre à la fois de verdir, mais également de baisser un coût coût pour les entreprises métallurgiques en Nouvelle-Calédonie. Et en plus, ça va faire des gros chantiers en termes de relance. Cette STEP, ça fait depuis 2019, depuis que je suis élu, qu'on en parle. Et là, on est sur les dernières études avant lancement. Donc, on en a discuté avec l'Union européenne aussi, qui a l'air assez favorable à financer une bonne partie de ce projet. Donc, c'est sometime is too slow, comme quelqu'un dirait. Mais là, pour une fois, ça avance vraiment.
Ça avance vraiment. Ça veut dire que les chantiers pourraient démarrer avant la fin de l'année pour une mise en service. Il faut combien de temps après ?
Non, je pense. Les études se finiraient d'ici la fin de l'année. Par contre, le début des chantiers pourrait commencer à partir de l'année prochaine. Et c'est ensuite, il faut 3-4 ans de chantier.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans cette émission pour faire le point sur le travail conjoint de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie et du gouvernement par rapport à ce plan de relance. C'est une émission qui sera disponible en réécoute pour ceux qui le souhaitent, évidemment, comme chaque semaine sur notre site rrb.nc. Bon après-midi à tous et merci.
Merci à vous.
C'était les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu avec Toyota. Le tout nouveau Toyota RAV4 hybride est à découvrir chez Toyota, à Ducos et à Koné. Nouveau design, nouvelle couleur, venez essayer le nouveau Toyota RAV4. Confort, technologie, performance, une expérience de conduite, rien que pour vous. Toyota à Ducos et à Koné, téléphone 25 52 52, financement sur place.